qué fiebre hay. No, 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 ay, ay.
Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 227, émission musicale centrée sur les musiques, les peuples et leur histoire, diffusion sur RDIWA le lundi et le jeudi, sur Radio Saint-Ferréol le dimanche à 13h, et enfin sur la web radio Traffic to Rock. Pour les podcasts, les playlists, les infos, je vous renvoie vers le site internet www.rdwa.fr à la rubrique émission musicale. Cette semaine, c'est la rentrée de l'émission après 2 mois de congé radio, le temps de refaire le stock de musique, de thèmes à aborder et puis de faire des rencontres. Et j'en profite au passage pour rappeler le fonctionnement des radios associatives comme RDIWA, Radio Dragon, Radio Royan ou Radio Saint-Ferréol, pour ne citer que celles de la région. Des radios indépendantes, libres, sans matraquage publicitaire et qui sont des outils médiatiques à la portée de tous. Venez dans nos radios pour nous rencontrer, voir comment ça se passe. Venez échanger car nous avons besoin de vous pour exister. Que vous soyez simple bénévole, potentiel producteur d'émissions, généreux donateur ou simple observateur. Et ceci d'autant plus que les temps sont durs pour nos radios locales. Manque d'argent, problème de logement, de renouvellement des bénévoles, de reconnaissance par les élus locaux et j'en passe. Beaucoup de nos radios sont confrontés à ces problèmes et vivent malgré tout, car il faut bien faire tourner la baraque. Mais il faut garder à l'esprit que le contexte actuel n'est pas très favorable. Donc aidez-nous comme vous le pouvez, relayez l'info, au moins pour que tout ça puisse continuer dans de bonnes conditions. Voilà, le message du jour est passé. L'ordre du jour, comme l'année dernière, on commence la saison par une interview musicale. L'année dernière, c'était Valientes Gracias. Et ce soir, interview musicale autour de 2 artistes complets et complémentaires qui ont tourné au mois d'août sur les marchés du sud de la France, y compris nos marchés d'Iwa. Il s'agit de Manolo et Florian, duo de rue qui nous propose une musique sans frontières articulée autour d'une cora, d'une guitare et de 2 voix. Comme vous l'entendrez, il sera question entre autres de musique de rue, de vêtements, de voyages de l'Afrique de l'Ouest, de spectacles pour enfants, de contes, d'associations interculturelles ou encore de langues imaginaires. On démarre avec la traditionnelle petite interview d'une 20aine de minutes avant quelques morceaux joués en live. Rien que pour vous, le son du début de l'interview n'est pas top comme vous le verrez. Micro mal réglé, potard de mon micro laissé à fond par mon prédécesseur à la platine, je m'en aperçois trop tard. Bref, ce fut de la bricole pour qu'on puisse entendre tout le monde, mais le son s'améliore au fur et à mesure de l'interview. Voilà, et on terminera l'émission par 2 morceaux interprétés par le collectif Manoloco, dont fait partie Manolo, un des 2 protagonistes du jour. C'est parti pour cette rentrée du groove perdu. On se retrouve un peu plus tard. Allez, bonne écoute. Thank you. bienvenue aux deux musiciens présents ici autour de la table. Attention au casque. Salut à vous, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par les dames.
Donc mon prénom c'est Floriane.
Salut Floriane.
Ah, je joue, on fait un petit duo de rue dans les marchés en ce moment de la Drôme avec Manolo.
Tu es originaire de ?
D'Aveyron.
D'Aveyron. Quelles sont tes compétences autres que celles de jouer de la guitare, voilà, c'est ce qui est déjà pas mal.
J'ai des compétences plutôt artistiques, plastiques. Je suis artiste peintre, voilà, et styliste modéliste, donc je fabrique des vêtements en matière naturelle. Voilà, ma marque s'appelle Ogaïa.
Ogaïa.
Voilà, très inspirée de la nature.
D'accord. Alors, salut.
Du coup, moi c'est Manolo. Bien le bonjour à tous et ben voilà, je suis sur les routes de la Drôme en ce moment avec ma compagne Floriane, voilà, petit duo de rue autour de cette musique que je diffuse depuis quelques années. Moi je suis originaire de Dijon et voilà, je suis conteur, musicien conteur, on va dire, je développe une activité de musicien conteur sous le nom Manolo. Donc avec plusieurs petits spectacles allant des tout petites oreilles aux grandes oreilles, voilà, des spectacles pour les oreilles de tout âge et aussi des projets musicaux à côté avec un groupe qui s'est reformé cette année, qui a suivi le groupe Akilisigi qui a tourné pendant quelques années et maintenant on est parti sur une forme qui s'appelle Manoloco, une autre forme musicale plus orchestrée, on va dire, voilà.
On retrouve la cora, parce que la cora qu'on a entendue au début, c'est toi qui l'as fait.
Voilà, tout à fait.
Et dans ce groupe-là, il y a quoi d'autre comme instrument ?
Dans le groupe, il y a un... Bah, du coup, on va dire les sonorités africaines sont tenues par la cora et le balafon. Donc, ce xylophone africain, la cora étant la harpe africaine. Et derrière, un trio guitare-basse-batterie.
Ok. On aura l'occasion de... Pour les dates, parce que tu m'as dit tout à l'heure, il y en avait quelques-unes, pas forcément dans le coin d'ailleurs, mais donc du coup, voilà pour les présentations. Ce que vous faites là en duo, ça date de quand ?
Je t'en prie.
Et ça date de notre rencontre qui va au-delà d'une simple rencontre. Je sais pas si vous l'avez compris ou pas.
Si on l'a compris.
et du coup voilà, d'une envie commune de faire de la musique et de proposer cette musique dans la rue. Moi je fais ça depuis quelques années. Floriane m'arrêtera si je me trompe, mais je crois que c'était un de ces challenges de vie d'aller faire de la musique dans la rue et voilà, vu que moi je fais ça déjà depuis quelques années, et ben on s'est lancé à voilà, comme ça, sans prétention, se lancer dans un petit duo tous les deux en mêlant le plaisir des vacances et puis la musique dans la rue pour proposer ça et partager ça dans la rue comme j'aime bien le faire depuis plusieurs années.
Alors, puisqu'on parle de musique dans la rue, on s'est rencontrés au marché de Saillant. Mmh. Et je trouve, je l'ai jamais trop fait, que c'est un exercice, on ne peut plus difficile. Alors après, quand on est rodé, peut-être que c'est plus simple, mais en fait, il y a toute une batterie de personnes qui s'en foutent. quelques-uns qui s'accrochent un peu quelques secondes et puis certains qui aiment vraiment qui restent un peu à écouter, voilà, certains donnent, d'autres pas, enfin voilà, comment vous vivez cet exercice là qui pour moi est quand même pas facile, quoi, par rapport à un concert où les gens viennent parce qu'ils ont payé et qu'ils ont envie de voir les gens, là c'est pas le même contexte, quoi.
Nous le premier marché qu'on avait fait c'était à Anduze. Et c'est vrai que la première fois, moi, j'étais un petit peu flippée. J'ai vu des gens s'arrêter au moment où je prenais le chant et ça m'a, voilà, je me suis dit mince, je fais pas bien. Et puis en fait non, c'était juste, c'est ça, c'est la loi de la rue. Il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui s'interpellent, d'autres pas, et d'autres qui ont tout simplement pas le temps et qui passent et qui sont en vacances et qui font leur petit marché. Et voilà, donc à voir s'ils sont aussi sensibles à cette musique-là ou pas. Et voilà, faut juste pas le prendre personnellement. Et moi, c'est un travail que j'avais envie de faire, en fait. Voilà. Et après, j'étais rassurée aussi par Manu.
Bah, à deux, c'est plus simple déjà, quoi.
C'est sûr. C'est sûr, c'est plus simple. Moi, je sais que j'ai le côté de l'autre côté à jouer aussi un peu sur scène dans l'année. Et moi, je sais que j'ai besoin de ce moment chaque année à aller jouer dans la rue. Et au-delà, comme tu disais tout à l'heure, le fait que il y a le côté salle où les gens ont payé, ont été voir un spectacle. Et moi, c'est plus un côté qui me dérange, ça.
D'accord.
Dans la rue, pour moi, c'est le vrai partage de la musique, il est là. On se met dans la rue, on donne, on partage notre musique et les gens, ce qu'ont envie de l'écouter, ils l'écoutent. Ceux qui n'ont pas envie, ils font leur route. On met un chapeau devant. Ceux qui ont envie de contribuer à notre activité, ils le font. Ceux qui n'ont pas envie, ils ne le font pas. Et du coup, il y a vraiment, pour moi, le vrai partage de la musique, il est là. Je me suis toujours dit que le jour où je ne pourrais plus faire de la rue, j'arrêterais cette activité. Si c'est juste pour faire de la scène et avoir cette grosse frontière qu'on met entre les artistes et le public, moi ça me, je sais qu'il y a un attrait. Et c'est bien d'être sur une scène devant un public, mais j'ai besoin de passer du temps sans cette barrière, d'abattre cette barrière-là et d'être dans un vrai partage de musique où il y a un vrai échange direct avec le public.
Et donc musicalement, ce que l'on a entendu, donc qui est quand même la Cora a une place. Énorme, et même je dirais que c'est ce qui interpelle un peu les oreilles, puisqu'on n'en entend pas si souvent que ça, dans le coin. Donc, Cora, Afrique de l'Ouest, est-ce que ça a une origine particulière
Alors, la Cora, l'origine de la Cora, c'est un instrument mandingue, donc de la culture mandingue. La culture mandingue vient d'un vieil empire d'Afrique de l'Ouest, l'empire mandingue qui prenait, on va dire, à l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces belles lignes tirées à la règle sur la carte africaine. avant qu'il y ait toutes ces belles lignes, il y avait un vieil empire, l'empire mandingue, qui prend tout ce qui est à peu près, peut-être que je me trompe sur certaines choses, mais en gros, on va dire que ça prend tout ce qui est le Mali actuel, une partie du Sénégal, une partie de la Guinée-Conakry, une partie de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Donc c'est une culture qu'on va retrouver un peu dans tous ces pays-là. Voilà. Et la Cora est un instrument qu'on va retrouver un peu dans tous ces pays-là. C'est un instrument qui principalement, on va dire, est joué par les griots. C'est ceux qui détiennent la tradition orale en Afrique, on va dire, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un instrument qu'on va retrouver un petit peu dans tous ces pays-là, mais maintenant quand même largement plus développé au Mali et au Sénégal, Casamance. Voilà.
Et tu as appris à jouer ça en autodidacte ou tu as...
Ouais, on peut dire que j'ai appris en autodidacte. J'ai commencé vraiment par faire une grosse formation de percussionniste, on va dire, en Afrique de l'Ouest. Et je me suis intéressé à cet instrument et j'en ai fait on va dire que je me suis un petit peu approprié cet instrument pour en faire un instrument qui est pas du tout sur l'accordage traditionnel. Du coup, il y a exactement, on va dire, les mêmes notes que dans la cora traditionnelle. C'est juste l'organisation des notes qui est différente. Ce qui change tout le jeu. Donc la plupart des Africains que je vais rencontrer qui vont jouer sur ma cora.
Ils jouent pas comme ça, quoi.
Vont dire que c'est pas vraiment une cora. On est plus dans de la même famille. Il y a le goni, ce qu'on appelle le goni. Du coup, j'ai plus tendance à dire que c'est un goni accordé sur la gamme diatonique. Du coup, un goni, j'appellerais ça une gora. Du coup, mélange.
un nouvel instrument.
Du goni et de la cora. Mais c'est vrai que je suis pas sur l'accordage traditionnel. Donc c'est un petit peu. Donc forcément, j'ai pas trouvé de maître. Cet accordage-là. Donc j'ai appris dans mon salon.
D'accord.
Voilà.
Ouais, donc le puriste pourrait être échaudé.
Le puriste va dire que c'est voilà, que c'est pas une cora et que je joue pas de la musique traditionnelle. Mais c'est sûr, je ne peux pas avoir les rythmiques traditionnelles et les mélodies traditionnelles. Je peux pas vraiment les rejouer à l'identique sur ma cora. C'est pas possible. Le doigté n'est pas du tout le même.
Les voyages, les uns les autres.
Mais moi, je suis une grande voyageuse, donc voilà, je suis partie déjà en Afrique il y a bien plus de 10 ans maintenant. Donc c'était mon premier grand voyage, ma première grande révélation, première inspiration au niveau de mes créations artistiques aussi. Et puis j'ai eu des périodes. Je suis partie au Canada pendant un an. Je reviens d'un voyage du Pérou depuis trois mois. Donc ouais, c'est dans ma vie, ça fait partie de moi et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est là que je puise toutes mes inspirations au niveau quoi. Voilà. Et toi?
Et ben moi, beaucoup de voyages en effet, mais beaucoup de voyages axés pendant plus d'une dizaine d'années sur l'Afrique. Sur l'Afrique, ça avait été pendant plus de 10 ans énormément de rencontres et voilà, j'étais déjà nourri de cette culture en France et à partir du moment où j'ai mis les pieds là-dedans là-bas en Afrique, j'ai été comme pris par quelque chose et comme la plupart des gens qui tombent un peu amoureux de l'Afrique, on n'arrive plus trop à savoir pourquoi. Même si on y trouve beaucoup de choses très compliquées à vivre, on est toujours appelé à y revenir. Et au départ, c'était des voyages pour la découverte. Et après, il y a eu de l'implication vraiment culturelle. On a monté une association à Dijon, une association qu'on a appelée Sokono avec plusieurs amis. On a eu une maison à Bobo-Dioulasso qu'on louait à l'année avec cette association dijonnaise.
Et où c'est Bobo-Dioulasso
au Burkina Faso.
Burkina,
c'est la deuxième ville du Burkina. D'accord. Ouagadougou, la première, la capitale. Bobo-Dioulasso, la deuxième. Une ville sur laquelle on s'attache beaucoup. Elle sort des grosses mégalopoles africaines qui sont très compliquées d'accès, où ça grouille beaucoup. Bobo, on est tout de suite dans une ville. Et c'est un gros carrefour musical. C'est vraiment une ville qui est réputée pour être un gros carrefour musical en Afrique de l'Ouest. Donc on s'est un peu installé là-bas, on avait rencontré des Burkinabés quelques années auparavant et on a commencé à monter un projet d'échange avec eux. Donc on a eu cette maison-là, cette maison servait à accueillir des projets d'échange culturel. Donc on a organisé des stages de danse, des stages de musique, il y a eu des projets d'échange autour de la poterie traditionnelle avec des élèves d'un lycée des arts et métiers de la céramique en France. On fait des voyages d'échange là-bas, des échanges autour du théâtre avec des élèves d'un lycée burkinabé, des élèves d'un lycée lyonnais. Voilà. Cette maison a servi de ça, de lien, d'échange entre les deux cultures, on va dire, entre nos cultures et la culture Afrique de l'Ouest pendant plusieurs années. Voilà.
Et donc cet asso, elle continue encore à vivre?
Cet asso continue à vivre principalement sur le territoire français maintenant.
Mm-hmm.
Le lien avec le territoire africain, en tout cas au niveau de cette maison, s'est arrêté il y a 3 ans maintenant. Mm-hmm. Les contacts sont toujours faits, mais pour l'instant, les activités de cette association sont plus sur le territoire français maintenant.
D'accord. On a papoté 2 minutes avant de venir là, et donc... la langue que vous utilisez, bon, c'est assez bluffant, hein, mais c'est une langue imaginaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus?
Eh oui, ben, je peux en dire un mot. Quel mot utiliser pour définir une langue imaginaire? C'est intéressant, ça. On pourrait utiliser des mots imaginaires, mais bon, ça va pas parler à grand monde. Alors. Alors j'avoue que pour être sincère, on va dire que je suis parti au départ sur vraiment une grosse influence sur les langues africaines, principalement le Dioula et le Bambara qui sont parlés principalement au Mali, au Burkina Faso. Et dans le départ de mes compositions, quand j'ai commencé à composer des chansons, j'ai écrit des textes en français, je les ai fait traduire par des amis burkinabés et je me suis mis à chanter des textes en Dioula ou Bambara. Et je me suis vite rendu compte que les Africains ne comprenaient strictement rien à ce que je racontais. Je me suis dit, bon, j'ai tout fait traduire, il y a quand même un gros travail de prononciation à faire, ouais. Tout ça, c'était quand même très compliqué. Et l'association des mots, finalement, que je trouvais dans mes mélodies, ne voulait plus rien dire. Donc voilà, je me suis vite rendu compte que les Africains comprenaient rien, et mis à part quelques mots. Et ça m'a emmené finalement à me plonger dans un espèce de dialecte qui était africanisé à la base, nourri de ces dialectes de base. Et j'ai commencé à me laisser aller dans le chant, on va dire. Laisser aller, c'était quelque chose que je pratiquais vraiment pas du tout avant. Mmh. Et en jouant la kora, j'ai commencé à développer quelques mélodies. Par-dessus ces mélodies, j'ai commencé à chantonner. Et j'ai commencé à me lâcher sur, on va dire, comme on appelle communément en France, de gromelot. Voilà. Et j'ai créé un peu mon gromelot, mon yaourt, mon yaourt brassé à la sauce moutarde, on va dire, hein, et avec Dijon.
Mais c'est un yaourt complètement free ou il y a quand même...
Alors voilà, on va dire que au départ, c'est quelque chose de complètement free et ça le reste et ça va le rester parce que pour moi c'est devenu quelque chose qui pousse vers l'improvisation et le lâcher prise. Donc c'est toujours ce que maintenant je revendique, une langue qui invite au voyage et au lâcher prise. Et après il y a des choses qui sont figées, mais pas de mots. Il y a pas de, j'ai pas de définition propre aux mots. Par contre, dans les différents groupes que j'ai montés et joué avec du monde, comme on fait avec, avec Florian, là, sur des refrains qu'on va reprendre ensemble, il y a des choses qui sont écrites.
D'accord.
Bien sûr. Des choses qui sont écrites, parce que si on se retrouvait à chanter des refrains et chacun chante ce qu'il veut, c'est un peu compliqué au sein d'un refrain. Donc les couplets, c'est plus du lâcher prise, de l'improvisation, et bien sûr, au fur et à mesure d'utiliser ce dialecte, bah, il y a des choses qui reviennent, et on commence à, il y a des choses qui se figent et des mots qui reviennent, et c'est un dialecte qui est nourri au fur et à mesure, on va dire, une langue qui se nourrit, et dès qu'on a envie de sonorité, et ça permet de composer et d'être vraiment complètement free dans la composition. Alors, il y a un côté beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas, de barrière par rapport au texte et par rapport à mettre en mélodie certaines choses. Et du coup, moi, c'est un dialecte maintenant que j'ai développé pour me dire, ben moi, mes morceaux, j'ai des textes en français qui sont écrits derrière. Mais ces morceaux-là veulent dire des choses pour moi, ça peut vouloir dire autre chose pour les gens qui l'entendent. Donc voilà, maintenant j'ai envie de développer le concept, de me dire, bah, c'est une langue imaginaire, faites votre propre interprétation du morceau, et peut-être que l'interprétation peut être différente d'un morceau à l'autre. On a tous eu cette expérience d'entendre des morceaux dans une langue qu'on connaît pas, et ça nous parle quand même, et ça nous fait voyager quand même dans des univers, et c'est ça que j'ai envie de développer, de me dire, bah, voilà, faites votre interprétation. Ce morceau-là, qu'est-ce qu'il a envie de dire chez vous? Et moi, ça rejoint aussi mon boulot de conteur derrière, de baigner dans l'imaginaire des gens. Et ce dialecte-là, pour moi, c'est vraiment une invitation à lâcher prise dans son imaginaire.
Et les contes que tu fais, tout seul, non, t'es accompagné quand tu fais ça ou...
J'ai plusieurs formules.
Et donc, du coup, tu utilises aussi cette langue imaginaire ou...
c'est très marrant parce que c'est vraiment le dernier projet que j'ai monté. Là, j'ai eu la chance, on va dire, d'être soutenu sur la création d'un spectacle pour les tout petit, très jeune public.
03,
voilà, tout à fait. C'était un projet qui a été soutenu par la région Bourgogne. On a été financé là-dessus parce que c'était une demande dans la région, un manque de spectacles sur ce public-là. Donc on a été vraiment soutenu là-dessus et donc on a été invité à être à avoir des semaines de résidence dans des crèches pour tester des formes de spectacles pour qu'on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et moi j'ai voulu développer un spectacle autour de la calebasse, autour de la manipulation de calebasse. Et j'en suis arrivé après différents tests de finir par raconter tout ce spectacle-là et raconter dans cette langue imaginaire. Il n'y a aucun mot en français dans le spectacle.
Bon, en même temps, pour les 03, c'est peut-être pas forcément une barrière.
Et non.
Et du coup, pour ce public-là qui finalement, tu peux pas faire un show de 45 minutes avec des gamins.
Non, c'est une forme de 25 minutes.
Voilà, 25 minutes. Ouais. Et là, ils restent accrochés.
C'est ça. Après, il y a beaucoup de manipulation aussi. Hein. Il y a de la manipulation, un jeu avec des calebasses qui se découvrent, des lumières. Donc, il y a beaucoup de... Je ne pourrais pas leur parler en dialecte pendant 25 minutes sans qu'il se passe rien. Ouais, c'est pas possible. Donc, en associant la manipulation au dialecte imaginaire, moi, ça m'a permis de rester dans le plaisir de conter. Parce que raconter pour des tout-petits, on est obligé de vraiment minimiser la narration. Et moi, je ne m'y retrouvais pas là-dedans. Donc, ça m'a permis de garder ce plaisir de conter, mais dans une langue imaginaire. Voilà.
Ce spectacle, il s'appelle
Canala.
Canala, il tourne encore ?
Il commence, c'est le tout début.
D'accord.
Il a été joué qu'une seule fois et je vais commencer vraiment la diffusion de ce spectacle-là sur la saison 2017-2018.
Et on peut se renseigner
Sur mon site internet.
Bah, on le mettra en lien sur le podcast.
Ouais.
Florian, toi, tu viens d'où musicalement ? C'est quoi tes kiffs ? Des choses avouables ou non, j'en sais rien.
Non, mais moi je suis plus dans la folk music, c'est plus la musique folk qui me parle. Mais voilà, moi j'ai pas vraiment...
Musique folk, c'est-à-dire... C'est un terme un peu...
On va dire Bob Dylan et toutes ces petites choses-là, c'est des choses que j'écoute beaucoup. Donc après j'ai été baignée beaucoup dans le reggae, j'ai eu beaucoup de périodes musicales, j'adore la musique. Et donc voilà, après, j'ai toujours aimé chanter, donc c'était juste une petite occasion là pour commencer. Et puis le reste, on verra, mais je ne suis pas dans la musique en soi pour le moment, quoi.
D'accord.
Voilà.
Qu'est-ce que je veux dire ? On va peut-être pouvoir enchaîner sur d'autres... d'autres morceaux. Est-ce que vous avez des messages à faire passer outre effectivement ce que vous venez de dire, les spectacles, les concerts, je sais pas, c'est l'occasion. Non, espèce de pub, quoi, tu vois, autre que le spectacle dont tu m'as parlé avec ton autre groupe.
Bah après, si on peut, oui, en termes de communication et de publicité, si on peut se servir, voilà, du fait d'être à l'antenne. Moi, j'invite les gens à découvrir, en tout cas, je vais parler pour moi, hein, personnellement, tu parleras pour ton activité après. je vais inviter les gens à découvrir un petit peu mon activité sur mon site internet manolocompteur.fr. Voilà, et du coup, en lien sur ce site internet, il y a un petit peu tous les spectacles que je peux proposer, et il y aura très prochainement le lien sur le groupe Manoloco qui va être amené à tourner. Et en restant connecté sur ce site, il y aura dans l'année qui vient, si tout se passe bien et qu'on reste dans cette énergie commune avec Florian de faire des choses musicales ensemble, et je pense que vous pourrez écouter des choses qu'on fera tous les deux parce que ça nous a donné envie. Mm-hmm. Quoi, moi en tout cas.
Moi aussi, voyons donc.
Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça.
Ok. On va continuer avec la suite de quelques morceaux de votre répertoire. À la recherche du groove perdu, session 227, interview musicale avec Manolo et Florian. Après ces parlottes, quelques extraits de ce qui pouvait jouer sur les marchés cet été. Ça a été enregistré le 14 août dernier. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite. C'était le nom de la chanson là ?
Tima.
Tima.
Woman Kelly, c'est la prochaine.
Thank you.
qu'on peut en faire encore. Hein.
Pas encore. En fait.
Pied Léo ou Bobo ?
Peut-être plus Bobo.
Ouais. Hein ? Allez.
Voilà pour ces trois extraits du répertoire interprété cet été sur les marchés, quelques marchés du sud de la France. On enchaîne avec deux extraits d'une autre facette du répertoire de Manolo avec le collectif Manoloco. Deux extraits live également, les morceaux Canou et No Time.
Puis, lors d'une simple virée sur les chemins de la vie, il a croisé un grand personnage aux multiples visages qui prétendait s'appeler l'amour. Quel drôle de nom quand même. Mais bon, il était bavard et il avait plein de choses à raconter, alors Alors ils ont décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Canot. Thank you. voyez-vous, l'amour a fini par le fatiguer. Bah ouais, il parlait beaucoup, il arrivait pas toujours à comprendre ce qu'il lui racontait alors. Alors il lui a dit que... Il lui a dit que peut-être plus tard sur son chemin de vie, bah il serait ravi de le recroiser, mais que pour l'instant, il avait bien d'autres choses à faire. Et la vie s'est accélérée.
Voilà pour cette émission et quelques extraits des enregistrements disponibles sur SoundCloud du collectif Manolo Co. Manolo plus loin Co. K.O. Pour les infos concernant les activités, les autres activités de Manolo, je vous renvoie au site manolocompteur.fr. Il a également un Facebook sur la même appellation. Voilà, j'en ai terminé avec cette émission de rentrée. On se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. On débutera une série de deux émissions consacrées à deux groupes des Antilles françaises, La Perfecta et les Vikings de la Guadeloupe. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, le podcast sur le site www.rdwa.fr. Bonne semaine, bonne soirée, c'était La Recherche du Groupe Perdu. Ciao.
Très vite, en l'espace d'une fraction de seconde, les sensations qui étaient rendues inaccessibles ne demandaient qu'à s'exprimer. Un jour, en rentrant du travail, là sur le chemin, il a croisé une dame incroyable. Une dame dont les paroles débordaient de simplicité.